Bonjour à tous, je suis en compagnie de Irène et Cassandra et je m'appelle Édouard Pelletier. Nous sommes aujourd'hui ici pour parler du magazine World Wide Napier et également débattre sur le terme des nouvelles technologies, notamment l'algorithme pour ce qui est de communiquer avec les personnes qui nous sont chères et qui sont décédées. Donc bonjour Irène.
Bonjour à tous. Et bonjour Cassandra.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, et cette année, nous avons fait un projet très intéressant qui s'appelle World Wide Napier. Et ce magazine, c'est la deuxième édition. Et oui, c'est tous les étudiantes qui sont motivées et engagé et peut écrire quelque chose sur la langue. Par exemple, j'écris un article très intéressant, je crois.
t'inquiète pas.
Et sur la façon dont on parle et c'est relié avec toutes les études que j'ai fait l'année dernière. Pendant mon cours à l'université. Et oui, il parle de difficultés que les femmes rencontrent tous les jours parce qu'elles sont jugées pour la façon dont elles parlent. Et oui, c'est un thème d'actualité, je crois. Mm-hmm. Et il y a aussi de films ou de... par exemple de films pour les enfants qui sont très sexistes et oui il y a des exemples aussi dans mon article qui sont très intéressants et bien sûr il est écrit en français.
Très bien. Oui, car le but justement du magazine est d'écrire un article dans une langue autre que l'anglais ou notre langue maternelle. Donc toi t'es italienne, tu n'aurais donc pas pu écrire en anglais ou en italien, et donc tu as choisi d'écrire en français, la langue que tu étudies.
Oui.
Et toi, Cassandra ?
Alors, moi, je suis autrichienne, alors je n'ai pas eu la possibilité d'écrire en allemand, et j'ai choisi l'espagnol. Et moi, j'écris un article sur Frida Kahlo. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était en été, j'étais à Budapest avec ma meilleure amie, et ben, elle m'a surpris, elle a dit « voilà, on va faire quelque chose, une petite aventure ». Et voilà, j'ai vu, on va aller au musée national. Et moi, j'adore l'art, alors j'étais excitée déjà. Et quand j'ai vu que c'était une exposition de Frida Kahlo, j'étais hyper, hyper contente. Mm-hmm. Et moi, je crois que cette femme est vraiment une inspiration. Et elle a vraiment eu beaucoup de douleurs dans sa vie. Mais néanmoins, elle a une inspiration, elle était motivée. Et je crois que si on connaît sa histoire de vie et on voit ses œuvres, c'est vraiment magnifique. Alors, j'ai vraiment voulu parler de ça un peu.
Ok, une expérience marquante.
Ouais.
Tu as voulu partager avec nous. Très bien.
Ouais.
On parlait tous les deux de femmes.
Ouais.
Ouais. Et oui, c'est un projet très intéressant et bien sûr nous allons faire une troisième édition et elle commencera en janvier.
Oui.
Et oui, tous les étudiants sont invités.
Oui, invités. Peu importe si ce sont des étudiants de langue.
Pas importe.
À partir du moment où vous connaissez une langue autre que l'anglais ou votre langue maternelle, vous êtes invité à participer au projet et écrire votre article.
Oui.
Vous êtes plus que bienvenue. On vous confiera aussi d'autres tâches. Par exemple, moi, donc j'ai écrit un article sur Venise. J'ai eu la chance d'habiter donc 10 mois en Italie, à Venise. Donc, une expérience qui a été tout à fait marquante. Et comme Cassandra ou même Irène, j'ai voulu en parler. Et donc, j'ai choisi d'écrire en italien. Voilà. J'étais d'ailleurs donc le seul à écrire en italien, mais c'est... J'en suis assez fier, en fait, et pour être tout à fait honnête. Et oui, si vous voulez participer au projet, n'hésitez pas. Et nous avions tous des tâches différentes, donc je me suis personnellement occupé du côté graphique, en tout cas pour ce qui est des images des articles.
Oui, oui.
Et Irène, toi, tu faisais donc...
Et je fais partie de la production et j'étais la personne qui donnait tous les ordres à tous les gens.
Ouais. Dictateur.
Ouais. Mais les résultats, c'est bon.
Oui, de très bons résultats. Franchement, on a fait un travail dont on peut être fier, je pense.
Et Cassandra aussi, elle a participé un peu avec la photographie.
Oui, alors j'ai dit de faire des photographies pour les auteurs, pour montrer qui a vraiment écrit ces articles.
Oui, je crois que c'est très intéressant aussi, très important. Et oui, nous avons aussi une social media team, distribution graphic, et c'est une manière pour faire que tous les gens font partie de ça, et activement. Et c'est un projet de Sylvain Blanche,
professeur de français donc à Napier.
Oui.
Et c'est aussi grâce à lui que nous sommes ici aujourd'hui
merci,
pour
Sylvain.
Cette émission. Merci beaucoup, Sylvain.
Et aussi, Edouard a dit qu'il est le seul qui a écrit en italien. Et c'est vrai, nous n'avons pas beaucoup d'écriteurs en italien et c'est un dommage. Mais oui, si tu veux écrire quelque chose en italien et tu es intéressé, nous avons toutes les informations sur Instagram et Facebook.
Ça fait italien ou même une autre langue
qui
ne serait pas encore représentée jusqu'ici. Sachant qu'il y a une certaine prédominance du français.
Oui, ouais,
c'est vrai. Donc ça serait intéressant de pouvoir mieux répartir les langues. Donc avoir actuellement nous avons donc du français, de l'espagnol, de l'allemand et de l'italien. Et c'est tout il me semble, c'est ça.
Ouais. Par exemple, peut être intéressant d'introduire les chinoises.
Oui, du chinois ça pourrait être intéressant. Peut-être limité par rapport au nombre de lecteurs, mais pourquoi pas.
Oui. Mais aussi à Napier, il y a beaucoup d'étudiants qui étudient le chinois.
Qui étudient le mandarin, oui, c'est vrai, tout à fait. Et... Ou même il y a aussi beaucoup de chinois où à Napier, donc des étudiants étrangers aussi qui viennent. Donc ça pourrait être intéressant
Ou peut-être une collaboration entre les étudiants qui font le chinois et les élèves qui font en échange ici. Comme moi, personnellement, je fais le chinois. Je crois que c'est hyper intéressant. Bien sûr, c'est, la langue vraiment doit être dans le contexte. Alors c'est vraiment difficile, mais peut-être avec une collaboration. Alors moi, j'ai déjà parlé avec mon ami à Taïwan pour avoir un petit paragraphe en chinois dans un article. Et moi, je trouve ça hyper cool.
Donc voilà, c'est un projet assez innovant, intéressant. Et donc que vous soyez intéressé, peu importe les raisons, que vous soyez intéressé, ne serait-ce que pour le CV ou alors tout simplement une expérience personnelle assez, attachante, ça nous rapproche aussi. Moi, finalement, j'ai rencontré beaucoup de gens aussi grâce à ce groupe. Et c'est une expérience, voilà.
Oui. Donc, il y a 27, oui, je crois, étudiants qui ont participé à ce projet.
Sachant aussi que le projet n'est pas limité seulement à Napier. Donc, on a aussi des étudiants de Strathclyde à Glasgow.
Oui, c'est vrai. Oui.
Donc, si vous connaissez d'autres personnes qui sont intéressées et ça ailleurs, en dehors de Napier, n'hésitez pas.
Oui, il y a aussi beaucoup de gens qui sont maintenant en Erasmus et ils ont participé aussi. Et tu ne dois pas être à Édimbourg ou... au Royaume-Uni.
Pas de problème. À partir du moment où vous êtes motivé et avez envie d'écrire, vous pouvez demander et on serait ravis de pouvoir vous aider et de mener à bien le projet. Parfait. Donc maintenant, on va passer au débat, si on peut parler de débat, plutôt la discussion concernant un sujet qui prend de l'ampleur ces derniers temps, un sujet totalement lié au 21e siècle. C'est l'algorithme et notamment le fait de pouvoir communiquer avec les morts. Irène, si tu veux commencer.
Oui, c'est un thème très, très d'actualité parce que j'ai lu de ça déjà. Et oui, je peux dire que je suis contre. Et parce que ça peut être dangereux pour tous les gens qui vivent. Parce que ça fait partie de la vie, malheureusement. Il y a des gens ou des amis qui meurent. Et je crois que c'est important de faire le deuil.
Savoir faire le deuil. Mais là, justement, on peut parler d'une nouvelle forme de deuil, finalement.
Oui. Il y a un algorithme. Et pendant toute ta vie, on va recueillir.
Recueillir, oui.
Oui, toutes les informations, tous les messages, oui, tous les emails.
Ouais, donc, recueillir les données à partir des applications ou même depuis Internet.
Oui.
Donc, admettons que vous avez une conversation sur WhatsApp ou Facebook, sur Messenger. Toutes ces données vont être conservées.
Oui.
Et justement, ces mêmes données vont être utilisées après votre mort afin de pouvoir reconstituer une conversation
oui.
comme si vous étiez encore vivant. Et donc, je partage ton avis. Je trouve qu'il y a un côté assez malsain derrière.
Oui.
Et il faut savoir lâcher prise. S'il y a une chose dont on est certain aujourd'hui, c'est qu'on mourra tous un jour, finalement. Et donc, il faut savoir lâcher prise, à mon avis, en tout cas.
Oui, oui.
Il faut savoir comprendre que la mort est un passage obligatoire. Et je ne pense pas qu'on devrait en avoir peur, finalement. La mort, il y a rien de plus rassurant finalement quand on y pense, parce qu'on sait ce qui va se passer. Enfin, on sait qu'on va mourir. On ne sait pas ce qui arrive après, mais on sait qu'on va mourir.
Oui. Aussi, je trouve que c'est très bizarre, par exemple, que tu as quelqu'un qui est mort et tu messages avec cette personne, et c'est très difficile d'avoir une nouvelle vie, par exemple.
Oui, en fait, c'est ne pas savoir lâcher prise. Oui, 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 tout à fait.
Par exemple, tu messages avec ton mari ou ton petit copain qui est décédé, qui est mort, et au même temps, tu essayes d'avoir une nouvelle, un nouveau mari ou petit copain. C'est très bizarre, je crois.
Bon, en fait, moi, je dirais que ce n'est pas vraiment faire la deuil de texter quelqu'un qui est mort. Alors moi, pour faire une petite comparaison, si on a un enfant et on ne veut pas dire aux enfants, voilà, c'est comment ça se passe dans le monde, on a des métaphores ou des petites histoires pour dire, la vie est belle, il n'y a rien de grave là-dedans. Mais et moi, je crois que c'est un petit le même, alors... On dit, voilà, tu peux encore texter avec quelqu'un qui est mort. Et tu ne dois pas vraiment réaliser que cette personne n'est plus là. Mais là, je crois que c'est... on vit un peu dans une... imagination, dans un... vie...
Une fiction, oui, finalement. Oui, ouais. Tout à fait d'accord avec toi. En fait, il ne faut pas oublier que tout ça est absolument artificiel.
Ouais.
Et la personne à qui on pense pouvoir parler n'est autre qu'un ordinateur, finalement. Des lignes de code, toutes mises ensemble... Avec l'émergence de l'intelligence artificielle, on peut s'attendre à des progrès considérables dans les prochaines années. D'ailleurs, il y avait une étude faite par la Ryerson University donc, au Canada qui parlait de cela. Et ils estiment que d'ici 60 ans, on aura assez de données pour pouvoir justement reconstituer une conversation normale. Donc, comme si... Bon, admettons, c'est tout à fait glauque, mais admettons que Irène est morte il y a 2 ans.
Oui.
Là, je pourrais être en train de te parler comme je pourrais être en train de parler à un ordinateur, finalement. Ouais. Et ça pourrait être une réalité. On a du mal à encore imaginer ce genre de choses. Même si ça arrive progressivement, ce genre de choses pourrait bien arriver d'ici 50, 60 ans. C'est une possibilité à prendre en compte.
C'est vrai que c'est une possibilité, bien sûr. Mais oui, je crois qu'il fait du mal parce que... je crois que ça peut être très dangereux pour ton cerveau. Parce que si tu n'es pas une personne très forte, Oui.
Oui, il faut un certain mental derrière. Oui. Il y a un côté psychologique et encore, à vrai dire, je pense que, pour des raisons éthiques, je pense que, personnellement, je pense que ce genre de choses devrait être interdite.
Oui. Aussi, il y a, je crois qu'il y a, je ne suis pas sûre, mais il y a une privacy de mort. Je crois. Et je ne suis pas sûre
qu'il faut... Oui, il faut aussi pouvoir donner son accord, justement, de pouvoir récolter toutes ces données au long de notre vie. Chose dont on n'est pas forcément conscient. Par exemple, je parlais avec une amie hier, elle me disait que son téléphone, des fois, s'activait. Parce qu'à partir du moment où elle prononçait le mot Google,
ouais,
le téléphone l'entendait et donc s'activait. Je ne sais pas si tu te rends compte, ça veut dire qu'on est sur écoute 24 heures sur 24. Qu'on le sache ou pas.
Oui, mais peut-être, c'est un thème d'actualité aussi. Il y a l'Amérique qui pense que les Chinoises vont écouter notre conversation.
Mm-hmm.
Tu connais toute l'enquête avec les Huawei téléphones?
J'en ai pas entendu parler, non.
Oui, c'est... il veut... interdire la vente de tous les téléphones chinois dans l'Amérique.
D'accord.
Mais c'est une gossip.
Donc, attends, c'est une véritable information ou c'est fake news?
mais on a dit ça, mais je ne suis pas sûre qu'il va faire cette chose-là parce qu'il y a beaucoup de téléphones chinois dans l'Amérique. Je crois que c'est improbable qu'on ferme cet commerce.
D'accord.
Oui.
Ouais, moi, je crois aussi qu'à un certain degré, ça va de, bah, d'essayer de contrôler les personnes. Alors, moi et mon père, nous avons googlé comment faire, comment fonctionnent certaines bombes. Et nous avons googlé ça, seulement pour comprendre la physique, pas la bombe. et mon père a dit, voilà, maintenant, peut-être quelqu'un va...
C'est vrai?
Ouais, bah,
ouais, peut-être que vous affichez maintenant.
Oui, ouais, ouais. Ouais. Et moi, je comprends ça. Alors, à un certain degré, c'est vraiment pour la sécurité. Mais de ce jour-là, vraiment, on veut avoir tout. Veut savoir comment tu t'appelles, ce que tu fais. Et moi, personnellement, par exemple, j'étais sur Facebook il y a quelques jours et il y a eu une fiche me disant, voilà, les présentes pour Noël, etc. Et là, moi, j'ai vu, il y a eu je crois que c'était une tasse avec Autriche et l'Angleterre. Et on a dit, pour une maman, l'amour ne connaît pas de distance entre l'Autriche et l'Angleterre. Et moi, je crois que c'est vraiment... c'est fou.
Ouais.
Pourquoi Facebook savent que moi, je suis plus en Autriche, mais maintenant en Angleterre et tout ça, moi, je crois que
c'est... C'est du ciblage, ils ont beaucoup d'informations, ils savent d'où tu te connectes, donc ils savent pertinemment que tu habites en Écosse. Ils savent que tu communiques avec beaucoup d'Autrichiens, donc ils ont pu faire le rapport entre toi et l'Autriche et toi et l'Écosse.
Mais là, c'est vraiment personnalisé. Moi, je crois que c'est...
Mais c'est la même chose avec moi, parce que j'ai fait beaucoup de shopping en ligne. Et...
Ah bah alors là, nos cookies, c'est...
Mais et tout le temps que je suis sur Facebook, par exemple, il y a de fiches et... qui parle, par exemple, de tous les sites que j'ai vus. Et c'est très bizarre.
Ouais.
Parce que je suis, je suis comme... Mais je suis allée sur ce site cette matin.
Mm-hmm.
Et maintenant, il est sur Facebook aussi. Et oui, c'est un peu... Il y a quelqu'un qui le contrôle.
Ce qu'il faut faire dans ce genre de cas, et si ça ne t'intéresse pas en tout cas, c'est de pouvoir vider la cache et supprimer ton historique. Supprimer ton historique et tous les cookies qui vont avec. Donc toutes les informations prises par ton navigateur vont rester sur ton navigateur justement et être partagées avec tous les autres sites que tu vas visiter. C'est donc comme ça qu'on peut faire de la publicité qui sera ciblée. et donc pouvoir t'offrir des produits qui seraient plus susceptibles de t'intéresser. Personnellement, ce n'est pas vraiment mon cas. Quand je veux acheter quelque chose, je vais directement sur le site et je n'ai pas besoin de me laisser influencer. En tout cas, c'est ce que j'espère. J'espère que d'un côté subconscient, ce n'est pas le cas. Mais oui, c'est en tout cas ce que tu peux faire, oui, pour ce genre de choses. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans l'utilisation des données, ce n'est pas encore ce qu'ils en font justement pour les pratiques commerciales, mais plutôt au niveau de la sécurité. Parce que quand on sait que toutes nos données, justement, que ce soit message ou alors localisation, où on a été, d'où on s'est connecté, où est-ce qu'on a utilisé Google Maps, par exemple, toutes ces informations seront stockées sur des serveurs et... Alors, finalement, ça reste tout à fait accessible à quelqu'un qui s'y connaît un minimum. Enfin, minimum, je parle sans véritable connaissance de cause, je l'admets. Mais ce genre d'infos sont tout à fait piratables. Et je pense que là-dessus aussi, sur le siècle qui arrive, et encore, ça arrive tous les jours, ce genre de choses va continuer à se répandre.
Oui.
Donc, des attaques de pirates et du vol de données. Et aussi du chantage, des fois, dans les cas les plus extrêmes.
Oui, j'ai reçu une email l'autre jour.
Oui.
Et dans les emails, on a dit que j'essayais d'entrer à mon Instagram sans succès. Parce que,
succès,
oui. Parce que je crois que... J'ai la password n'était pas bonne et j'ai pensé beaucoup et j'étais comme je ne suis pas allée sur Instagram et ça signifie que il y a quelqu'un en dehors qui essaye de trouver ma password
pour Instagram. Quelqu'un qui essaie d'accéder à ton compte pour une raison comme une autre, difficile à imaginer, mais.
Et j'ai reçu cet email et ouais, c'est très bizarre, c'est un peu dangereux aussi.
Donc voilà,
j'ai changé tous mes passwords.
Ah, tu fais bien, c'est ce qu'il faut faire, oui.
Ouais.
Donc encore une fois, c'est justement un des autres dilemmes liés à ce débat. Donc tout ce qui est collecte de données sur internet et qui donc serviront pour comment dire un potentiel algorithme après notre mort, il y a toujours justement ce risque de vol des données, que l'on soit quand on est mort, j'imagine que c'est pas vraiment un problème, encore que, mais durant toute notre vie en fait. Et l'idée de savoir que quelqu'un est en train de, comment dire, d'écouter ou en tout cas que tous mes messages seront enregistrés, aujourd'hui comme demain, moi personnellement ça me stresse.
Ouais.
Ça me stresse un petit peu, ouais. Bref.
Je suis d'accord.
Ouais. Ouais, je ne crois pas que les personnes vont être hyper prudentes concernant le don. Alors, on parle déjà de la privée, etc. On doit être prudent sur Internet. Mais je ne crois pas que la masse vraiment comprend pourquoi. Peut-être c'est aussi l'oisiveté. On ne veut pas vraiment avoir beaucoup d'efforts pour s'informer. Ce qui concerne l'algorithme, je crois que peut-être les personnes pensent, voilà, je peux aussi donner mes dons pour créer un algorithme. Mais peut-être pas, peut-être les personnes ne réfléchissent pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Aussi au niveau de l'éthique. Et là, je crois que peut-être ça pourra être un grand commerce. Alors peut-être qu'on ne veut pas vraiment interdire une chose comme ça à cause du commerce. Potentiel.
Oui, car quand on y pense, finalement, c'est une nouvelle façon de faire du profit à partir de notre mort.
Ouais.
C'est glauque.
Ouais. Alors, on veut être immortel, peut-être.
Immortel, oui.
Immortel. Et voilà, comme ça, on peut gagner d'argent. On peut dire, voilà, si tu veux être immortel, nous pouvons t'aider. Alors, c'est la stratégie avec l'algorithme.
Ouais, mais tout ça reste quand même artificiel et superficiel, à mon avis.
Oui, mais je crois avec de bon marketing, etc., on peut, pour des personnes qui vraiment ont peur de la mort, oui, essayer de conveiller ce message de « voilà, tu peux être immortel ».
Un autre point qui serait intéressant de développer, c'est justement de penser du point de vue d'une autre société, justement, d'une autre culture. Parce que je ne pense pas que ailleurs dans le monde, en tout cas dans certaines parties du monde, cette peur de la mort soit aussi, aussi prédominante. Je pense que c'est plus quelque chose lié au monde occidental.
Oui, mais je crois que la religion est moins importante de ce jour-là que peut-être il y a 15 ans ou 20, 30 ans. Mmh. Et alors que je crois que nous avons plusieurs personnes qui vraiment ont peur de la mort, juste à cause de ça. Et en général, ouais, ça. Ou peut-être aussi d'être en face avec des personnes qui ont peur de la mort, avec l'Internet et les réseaux sociaux, etc. Ouais.
C'est un marketing pour les gens qui sont plus fragiles, par exemple. Et ouais, aussi, je comprends que si tu. Si tu as quelqu'un de jeune, de très jeune, qui est mort dans ta famille, tu penses, oh, mais il n'a pas vécu beaucoup.
Oui. Il t'a vécu beaucoup, oui.
Et je voudrais avoir plus de temps.
Plus de temps, oui.
Plus de temps avec ce...
D'accord, oui. Donc, rattraper le temps perdu.
Oui.
Et parler justement avec cet algorithme.
Oui.
C'est ce que tu penses, ouais.
Oui, mais je suis... je pense que c'est un peu dangereux, ouais.
C'est dangereux, oui.
Ouais.
Parce qu'on est... On fait face à une illusion, finalement. Et on se limite encore plus avec un enfant, imagine. Finalement, les données que tu auras avec cet enfant seront plutôt minimes, étant donné que, justement, cette collecte de données aura commencé à un certain âge. Tu auras peut-être 2 ou 3 ans de messages. Est-ce qu'à ton avis, c'est suffisant pour représenter une personnalité? Même non. D'un enfant, c'est bien trop limité.
Mais je crois qu'il doit avoir des informations, beaucoup d'informations. Mm-hmm. Je crois qu'ils sont 1000 messages.
Mais même 1000 messages, c'est rien du tout, 1000 messages, quand tu y penses. Non, est-ce que tu représenterais ta personnalité en 1000 messages?
Oh non, mais c'est un ordinateur à la fin.
Mmh.
C'est pas une personne. Il ne peut pas remplacer.
Oui, justement, c'est ce que j'essaie de dire. Ouais. C'est un ordinateur, même s'il aurait pris des données à travers des millions et des millions de messages tout au long d'une vie, ne sera jamais capable de remplacer une personnalité humaine.
Mais là, j'ai une petite question en fait. Ouais. Alors, prise qu'il y a une humaine avec la démence. Et il y a aussi un algorithme qui essaie de représenter cette personne. On pourra dire que l'algorithme est vraiment la personne, comment la personne a vraiment des habitudes, ouais. Oui, était le comportement, etc. Pendant toute sa vie. Et maintenant, l'homme avec la démence, vraiment ne peut pas se souvenir des choses importantes et aussi a le comportement un peu différent. Mais là, est-ce qu'on choisirait la machine avant que l'humain?
Donc toi, tu proposerais d'une certaine façon de soigner les problèmes mentaux à travers l'intelligence artificielle?
Non, là, je veux seulement dire que là, c'est un problème éthique, je crois.
Oui, encore une fois. Beaucoup de controverses.
Oui. Oui.
Bon, sur ce, nous vous laissons méditer sur cette petite discussion. Et merci de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup et au revoir.